intermondiale.
CV avec Pascal CV.
Que tous les coquins soient démasqués, jugés.
Boulevard.
Bienvenue dans l'RCV!
Tabaré!
Comment ça va tout le monde? Comment ça va? C'est vendredi! Ouais, on travaille. Vous autres aussi? Réveillée ce matin avec cette chanson longue dans tête, Michel Pagliaro qui nous dit « Travailler ». C'est-tu votre cadran? Avez-vous plein de choses à accomplir aujourd'hui en ce vendredi 3 mai? Hey, déjà mois de mai, première fin de semaine. Agréablement sous le soleil, partiellement par contre sous la pluie. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez des beaux plans prévus parce que ouais, aujourd'hui on travaille. Mais on va le faire ensemble, on va passer la prochaine heure dans cette belle zone de boulevard 102.1. J'espère que vous êtes là en grand nombre. Je commence à voir les textos entrer au 418 971 1021 ou encore sur Twitch, ben on est une belle grosse gang déjà. Salut, salut tout le monde. Faites signe si vous êtes bien en place pour l'émission. En ce vendredi, ben bien sûr, on est un petit peu plus relax qu'en semaine. Il y a beaucoup de nouvelles à aborder, mais il y a surtout beaucoup de plaisir à y avoir. En cette journée du mois de mai, le proverbe, il faut bien commencer ce début de journée avec notre fameux proverbe, sinon vous allez m'écrire. Et aujourd'hui, j'ai retenu ce qui te manque, cherche-le dans ce que tu as. Ça, c'est de la sagesse bouddhiste ce matin qu'on s'offre. Ce qui te manque, cherche-le dans ce que tu as. Hey, mon nom est Pascal, Pascal CV, leur CV, voilà pourquoi. Et on s'installe confortablement. J'ai fait une petite demande spéciale aux gens qui travaillent avec nous en musique pour vous choisir justement ce qu'on va vous offrir tout au long de la journée à Boulevard 102 pour éclaircir cette magnifique journée du vendredi. Et c'est la nouvelle de Corias. Pourquoi? Ben, parce qu'elle est dans la thématique du printemps. Puis aujourd'hui, on y goûte. Si vous avez une moto, si vous avez une décapotable, utilisez-la pour faire un petit tour, pour justement débuter le week-end d'une belle manière. Honnêtement, c'est assez chaud pour le mois de mai, début mai. Et c'est magnifique à l'extérieur. On aura un beau maximum aujourd'hui de 16 degrés. C'est pour ça que je vous conseille d'en profiter. Ça va monter tranquillement. Il nous reste quelques points météo à aller chercher. On est à 9 en ce moment sur la capitale nationale. Samedi, dimanche. Samedi 15 degrés, dimanche 22 degrés, alternance soleil-nuage. On s'est débarrassé de la pluie, peut-être quelques grains lors des nuits là, ou lors de la nuit de samedi à dimanche. Mais sinon, c'est derrière nous, quelques nuages seulement. On va le prendre. Hey, c'est le printemps? C'est le printemps un peu partout, même pour Corias.
Yeah. Leur CV avec Pascal CV.
Il faisait beau ce matin, j'avais le goût de me motiver. Je suis allée déjeuner à quelque part d'autre qu'à la maison, aller m'acheter un petit quelque chose. J'ai croisé Éric Boulay de l'Aube-Rivière. Souvent, on lui parle. Hein, ici, vous savez, en plus, on est allé faire des heureux un moment cette année avec certains auditeurs qui ont participé à tout ça. On est allé donner du café, des muffins directement à l'Aube-Rivière un matin avec la générosité d'Annick et Mélanie du Tim Hortons de Boischâtel. Mais ça pour dire que je l'ai croisé parce qu'il y avait justement un dîner là, d'affaires pour parler de l'orientation de l'Aube-Rivière. Puis c'est drôle parce que j'avais fait un screenshot sur mon cellulaire de quelque chose que j'avais envie de vous jaser parce que demain, 4 mai, entre 10h et 15h, c'est la traditionnelle collecte de dons matériels pour l'Aube-Rivière, là, l'Aube du printemps, ça s'appelle comme ça. Et l'équipe de l'Aube-Rivière est à la porte du garage qui est sur la rue Xian. Ça, c'est à côté de l'Aube-Rivière directement. Vous allez voir, là, ça va être bien indiqué. Et ils vont récolter plein d'articles qui se trouvent sur une liste que vous pouvez aller consulter directement sur la page Facebook de l'Aube-Rivière. Et cette liste-là, en fait, c'est plein de petites choses que tu dis, ah, tu sais, au quotidien, nous, on se casse pas la tête là, majoritairement pour mettre la main là-dessus, mais eux, ça peut servir. Puis dernièrement, je faisais un gros ménage du printemps, puis j'avais mis ça sur mon close friend d'Instagram. Là. Puis mes amis étaient comme, ah ben j'aimerais ça moi voir, c'est quoi les vêtements que tu vas donner et tout. Puis il y a vraiment une poche que j'ai mise de côté pour l'Aube-Rivière. Je vous invite à faire la même chose. Si vous avez envie d'aider, ben on cherche des pyjamas, des sous-vêtements. Par contre, ceux-là, ça faudrait que ce soit neuf. Hein? Grandeur de médium à X large. La laiterie pour des lits simples, des draps contours, des draps plats, des couvertures chaudes aussi. On cherche des tasses à café standard. T'sais, des fois, on a de la vaisselle puis on ne sait plus quoi en faire. On va porter ça à quelque part dans, je ne sais pas moi, des sous-sols d'église et autres qui vont revendre peut-être pas trop cher pour des gens qui en ont besoin. Mais à l'Aube-Rivière, ils vont aussi les utiliser si jamais. Tasses à café standard, des bols à soupe, des assiettes creuses. On cherche des cuillères à soupe, du shampoing, des savons de corps en portions individuelles, des déodorants, des brosses à dents. C'est toutes des choses qui sont vraiment à la base de. Des produits menstruels aussi, ça, honnêtement, c'est quand t'en as besoin, t'es une femme, puis t'es capable de mettre la main là-dessus parce qu'il y a des gens qui sont généreux puis qui en apportent. Ça doit faire toute une différence. Donc, tampons, serviettes hygiéniques, des rasoirs jetables, des imperméables à usage unique, les genres de ponchos, là, et des items de premiers soins. L'Aube-Rivière recherche tout ça en fin de semaine. En fait, c'est demain. Si vous avez du trop-plein ou vous avez une générosité à faire passer à quelque part, eh bien, demain, 4 mai, de 10h à 15h, l'Aube-Rivière récolte ces dons-là. Est-ce qu'il y en a qui ont justement du surplus? Qu'est-ce que vous faites avec ces ménages-là du printemps, d'habitude? Est-ce que vous allez donner dans une œuvre caritative? Je sais qu'il y en a qui les jettent. En vrai, ça, j'ai jamais compris. À moins que ce soit bien, bien usé ou que ce soit des sous-vêtements, là, comme on dit. Il y a tellement de ressources ici dans la capitale nationale qui demandent que ça. C'est sûr que des fois, il y a certains endroits où on se rend compte que c'est vendu plus cher que ce que ça vaut, puis on se pose des questions, mais c'est pas partout. On peut quand même miser sur le raisonnement de tous et chacun quand vient le temps d'aller porter nos denrées ou nos objets dans des endroits où on pense aider. Mais vous faites quoi d'habitude avec ça? Chose certaine, si vous vous demandez, voyons, c'est quoi la liste qu'elle vient de nommer que l'Aube-Rivière recherche, leur page Facebook, tout est indiqué. Il y a plusieurs chose que je suis certaine que vous avez dans les armoires ou encore dans les penderies, dans les garde-robes que vous pourriez donner puis que ça fasse une grosse différence dans la vie de quelqu'un. Le clan de la savate à Boulevard 102.1, c'est électrique dans leur CV.
Leur CV avec Pascal CV.
À 10h13 avec un beau 10 degrés à l'extérieur. Y en a-tu qui sont en congé aujourd'hui? J'avais l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de monde sur les réseaux routiers. Je sais, il y a eu quelques, comme d'habitude, défis là, dans certains secteurs. J'écoutais les gars ce matin puis ils le disaient très, très bien. Mais mis à part ça, c'est libre. Je sais pas, il n'y a pas de férié, il n'y a rien, je sais pas. Il y a des gens en congé, il faut croire. Y a-tu une pédagogique, sinon, pour les enfants? Mais il y avait moins de monde sur les routes, je trouvais. Je sais pas pour vous. Ça vous a pris combien de temps à aller au travail? Moins que d'habitude ou autant? Peu importe, 418-971-1021. On s'en va dans un courant de nouvelles pas facile. Je vous le dis, cette semaine, c'est bien particulier. Autant que la semaine dernière, on se disait, ouais, il y a de la nouvelle, mais c'est souvent de la redite dans le sens où c'est des suivis de dossiers, beaucoup de politique. Là, on est dans le fait divers, là, ce qu'on appelle en journalisme le fait divers et pas à peu près. Beaucoup de drames, beaucoup, beaucoup de tragédies, de drames. Et il y en a un qui m'a particulièrement marqué aujourd'hui. C'est l'histoire d'un père de famille qui a fait vivre un régime de terreur à ses proches. Là, il jugeait que son fils n'avait pas offert une performance à la hauteur de ses attentes au hockey, entre autres. Là. Et dans ce temps-là, il le frappait sur le chemin du retour tout en l'insultant. C'est un homme très violent qui est âgé de 39 ans. Il a été déclaré coupable hier au Palais de justice de Québec après justement avoir fait vivre ce régime de terreur à sa famille. Et pendant plus de 8 ans, il a commis des voies de fait à répétition sur sa conjointe de l'époque et sur 3 de leurs 4 enfants. Quand il y avait des disputes, là, la femme en question a reçu des coups de poing, des coups de pied. Elle a même subi une fracture à un pouce quand elle essayait de se défendre. Il y a un épisode de violence aussi où il y a eu un coup à la tête qui lui a fait perdre conscience, puis elle va reprendre ses esprits à ce moment-là, elle va s'étendre, elle va se rendre compte qu'elle est étendue sur le sol, puis elle reçoit un verre d'eau au visage de la part de son conjoint, puis cette fois-là, elle a eu peur là, d'avoir été tuée. Ça va plus loin. Là. La mère a aussi raconté en cours qu'à un autre moment, quand il était de retour à la maison, son enfant, 10 ans, l'a accueilli, le visage super enflé. Et il tenait un hamster décédé entre ses mains. Puis on s'était rendu compte que le hamster familial, bien, c'était lui qui avait entre les mains, donc il avait été tué. Il avait essayé de protéger le hamster d'une attaque de son père, puis ça n'a pas fonctionné. Là, on dit on voulait pas tuer l'animal, seulement frapper son enfant pour lui enlever une manette de jeu vidéo. Ben voyons donc, tu sais. C'est pas mieux, là, on s'entend, là, c'est pire. Là. Et là, la mère a rapporté que son son conjoint de l'époque, l'avait aussi tapé au visage à une centaine de reprises, qui avait craché sur elle à une cinquantaine de reprises. Les enfants ont eu des coups au visage, sur les fesses, à plusieurs occasions aussi, et beaucoup de gestes de violence qui ont débuté quand il était encore au berceau, donc tout jeune. Là, l'homme, on ne l'identifie pas, vous comprenez, on veut protéger l'identité de toutes les victimes, mais il était reconnu coupable d'avoir menacé de mort son ex-conjointe et ses enfants à quelques occasions. La famille aussi, comme je vous disais, à un moment donné, là, elle revenait d'un match de hockey. Le père n'était pas content du résultat, puis il a dit à sa conjointe, « Tu sais que je peux donner un coup de volant puis tous nous tuer. » C'était toujours un climat de terreur comme ça. C'est fou de se dire, ça arrive ici, ça arrive proche de nous, puis peut-être auprès de gens de façon superficielle, là, on ne se rend pas compte, on les croise dans les arénas, ils ont l'air de rien, puis après on apprend dans les nouvelles ce genre d'histoire-là. Mais le juge, c'est Stéphane Poulin qui est derrière ce procès-là, et il n'a pas cru l'accusé, que lui a maintenu que son ex-conjointe avait inventé ces histoires-là pour se venger de ses infidélités et de limiter les droits d'accès à ses enfants. Mais c'est ça, le juge a dit, il y a certains passages du témoignage qui c'est invraisemblable de dire que ça a été inventé, là. Et le témoignage de l'ex-conjointe, il y a oui des imprécisions, mais il a été jugé sincère et crédible. Alors voilà ce qui s'est passé dans notre région. C'est absolument atroce de se rendre compte de ça. Et le père violent revient devant le juge Poulin dans les prochains mois pour des observations sur la peine. Il était en liberté pendant le processus judiciaire. Il était accompagné de son père et il s'en est pris verbalement à son ex-belle-fille à la sortie de la salle d'audience. Il l'a injurié, il l'a qualifié de menteuse, il était agressif. Là, les constables spéciaux voyaient ça, sont intervenus pour l'éloigner de la victime. Fait que vous voyez que c'est quelqu'un qui a un sang chaud, là, disons-le comme ça. Puis, c'est ça, on a présenter tout ce qu'il fallait durant la cour et on va faire suite dans quelques semaines. Financement du transport en commun, ça revient dans l'actualité. Geneviève Guilbeault, ministre des Transports, qui a convoqué les maires pour une réunion. On sait que le torchon brûle entre la CAQ et certains maires. On sait que c'est pas facile pour Geneviève Guilbeault, ministre des Transports et de la Mobilité durable. Donc voilà, on a l'impression d'avoir une rencontre au sommet qui s'est organisée. On a demandé aux maires responsables des sociétés de transport du Québec d'avoir une réunion dès lundi prochain pour parler de transport en commun. Et selon les informations de Radio-Canada, bien, Québec est prêt à financer ce qu'on appelle la part conjoncturelle des déficits qui sont liés à la pandémie et à la baisse d'achalandage, mais pas la part structurelle des déficits. Et on le sait que bien, Bruno Marchand a reçu l'invitation à suivre là, pour ce qui va en découler de tout ça. Mais c'est loin d'être facile, puis c'est une épine dans le pied pour tout le monde. Les maires se mettent un peu contre Mme Guilbeault. Fait qu'on va voir qui va l'emprunter, mais on appelle ça un véritable bras de fer. Est-ce que c'est une compétition de qui l'emporte? Pas du tout, parce que finalement, les citoyens sont un peu perdants là-dedans, si vous me permettez. Pendant qu'on est dans tout ce qui est RTC, il y en a qui étaient fâchés d'apprendre qu'on a dépensé pour un buffet à 33 200 $ dans un événement du réseau de transport de la capitale. Donc, il y a un contrat qui a été octroyé de cette valeur-là à la boucherie Le Boucan. Là. Mais tu sais, je veux dire ça, si eux ont un contrat, et ils l'acceptent et c'est tout. Là. Et c'était un événement de reconnaissance des employés. Ça a été tenu les 27 et 28 septembre dernier. Puis la facture, bien, ça comprend le service traiteur offert aux siège social du RTC et au centre Métrobus pour les 1800 employés. On dit que cet événement-là ne sera pas reconduit cette année. On ne va pas refaire ça par souci de saine gestion financière. Donc, une fois qu'on est questionné, on dit qu'on ne va pas refaire ça. Mais on avoue que ce n'est pas une bonne décision pour l'an prochain parce que le budget du RTC repose sur un équilibre précaire et l'événement représentait un montant d'environ 18 $ par employé. Là, c'est sûr que Claude Villeneuve, qui est chef de l'opposition à l'Hôtel de Ville, a dit que c'est une grosse dépense. Ce qu'on dit aussi plus loin, c'est qu'on a entendu la présidente du RTC dire qu'il n'y avait pas de gras à couper. Donc, on est un petit peu dans l'inquiétude par rapport à ça, à savoir si les tasses du RTC, à savoir si l'inscription à des fondations pour justement aller bouger, mais aux frais des contribuables, ce genre de buffet-là, est-ce que c'est pas du gras, ça? Bien, il y en a qui se posent des questions, surtout dans l'opposition. À vous de vous faire la tête. On parle de transport, bien, on parle d'essence. Le prix à la pompe pourrait être à 2 $ ce mois-ci, selon un expert. Alors, on a consulté nos experts économistes un peu partout au Québec et vous pourriez bien vivre une nouvelle hausse significative, je dis vous, mais nous tous, du prix de l'essence en quelques semaines seulement parce que le prix à la pompe pourrait grimper là, au-delà de cette barre psychologique des 2 $ plus tôt que tard. Et c'est ce qu'a déclaré le président pour l'Association des Canadiens pour l'énergie abordable. On a précisé que c'est une hausse qui devrait survenir la troisième semaine de mai. Alors, allez mettre de l'essence tout au long de la deuxième, puis économiser pour être capable de vous en payer lors de la troisième et de la quatrième. Non, mais on rit jaune, là. C'est déjà très, très cher. D'après moi, les fils vont s'extensionner dans les endroits où ça sera un petit peu moins cher. Mais est-ce que ça s'est rendu dans votre budget? Moi, je sais que je parlais à des proches, puis tout ce qui est tour de moto, tour de décapotable, justement, ou, tu sais, profiter de véhicules à moteur à essence, un petit peu moins d'implants parce que ça coûte cher. Puis il y a des gens qui voyageaient au Québec puis qui se disaient, bien, c'est bien plus abordable, mais qui comparent des fois avec un voyage dans le sud puis qui se disent, bien, à 1000 quelques, tout inclus, ça va peut-être me revenir au même si je décide de partir au Québec explorer. Après, ça dépend ce qu'on souhaite voir, puis ça dépend où on souhaite voyager puis mettre notre argent. Mais c'est quand même une interrogation importante, là. Où est-ce que vous allez passer vos vacances? Comment vous allez le faire? Puis est-ce que le prix de l'essence joue? C'est là où je me pose la question. Parce que j'entends beaucoup de personnes qui ont décidé d'arrêter là, des tours de moto, d'arrêter des tours de décapotable, parce que le prix de l'essence, bien, finalement, faisait en sorte que ça coûte le double, là, faire une sortie. Il y a beaucoup de textos qui entrent comme quoi il y a une pédagogique, effectivement, aujourd'hui, entre autres à la Commission scolaire des Premières Seigneuries. Aha! Voilà pourquoi il y avait un petit peu moins de monde sur les réseaux routiers ce matin. Avez-vous pris congé? Est-ce que vous promenez aujourd'hui? Est-ce que vous en profitez? Ah, là, je viens d'avoir une belle réponse à ma question. Merci de m'avoir renseigné. Sous un autre sujet, un rassemblement pro-palestinien s'organise en ce moment sur le campus de l'Université Laval. Vous voyez ce qui se passe du côté de McGill, des campements qui ont été érigés, des tensions qui ont monté, certaines violences aussi dans les propos. Ça impacte énormément le campus. On le voit aux États-Unis, c'est plus que de la violence, là. Finalement, c'est de l'agressivité, c'est des même des combats, des agressions au point là, qui se passent dans tout ça. Mais les étudiants de l'Université Laval vont préparer un événement pour démontrer leur soutien au peuple palestinien. Ça va se faire demain. Les organisateurs préviennent qu'ils n'ont pas l'intention de monter un campement comme on voit à McGill ou ailleurs. Et on veut être pacifique. On veut que ce soit solidaire aux autres actions ailleurs, là, en soutien aux Palestiniens. Et ça va être des activités de sensibilisation. On dit prévues sur place vers 10 heures. On espère qu'il n'y a pas des groupes anarchistes qui vont se mêler à tout ça puis virer justement en chaos ce genre de soutien que certains universitaires souhaitent apporter aux Palestiniens. Oh, c'est vraiment loin d'être... Ça divise, ça me fait halluciner à quel point ça divise ces guerres-là. Quant au fond, on était peut-être de façon idéologique en train de faire des pas vers l'avant quand on avait un Benjamin Netanyahou qui faisait plus l'unanimité dans son pays puis qui voulait en fait essayer de garder une main de fer, mais qu'on tentait de tasser parce qu'on n'était plus en accord avec ces tensions-là. Quand il y a aussi des citoyens, autant du côté de la Palestine que d'Israël, qui se disaient « ça n'a pas de sens de continuer de vivre comme ça, on n'a pas à s'haïr ». C'est fou comment une idéologie peut être plus dangereuse que des coups et que de la violence physique. Des années à se faire dire des choses au nom de la religion, d'un territoire, oui, peut amener à de l'agression. Mais quand tu te fais dire ou que tu entends un discours haineux toute ta vie, j'ai l'impression que ça a des impacts encore plus violents et agressifs pour tout ce que ça peut faire et tout ce que ça peut miner à travers le temps, encrasser dans des cerveaux, encrasser dans des communautés et justement peut-être faire élever la tension un peu partout dans le monde maintenant. Vraiment des gros mois qui s'en viennent dans la géopolitique. Et on va faire une courte pause dans l'heure CV. Merci d'avoir choisi Boulevard 102.1.
Jusqu'à dimanche chez Renault.
Boutique Spa, clubspa.com.
L'heure CV.
Quand je réfléchis, j'ai 6 cerveaux en fait.
L'heure CV avec Pascal CV.
Boulevard 102.1.
Pendant longtemps, c'était la météo qui était un peu juge de nos vacances. Hein? Est-ce qu'il va faire beau? Est-ce qu'il fera pas beau? Où est-ce qu'on s'en va? On va-tu en camping? Est-ce qu'on se loue des chambres d'hôtel, de motel? On va-tu ailleurs dans le monde? Là, le prix de l'essence va jouer. Puis vous m'avez répondu en grand nombre là-dessus. Parce que le prix de l'essence pourrait monter jusqu'à 2 $, hein? La fameuse barrière psychologique là, de 2 $ par litre pourrait être dépassée à partir de la troisième semaine de mai, selon certains experts et économistes. Je vous ai demandé... est-ce que ça joue justement pour vos vacances d'été? La majorité m'écrivent que oui. Des gens qui disent on budgète que pour l'essence parce que ça fait trop suer de voir notre argent passer là-dedans. On comprend que c'est du transport, mais c'est pas quelque chose qui reste. Quelqu'un qui dit ça me coûte moi 20 $ de plus aux deux semaines maintenant. Donc, je l'ai budgété. Quelqu'un qui dit on prendra pas la tondeuse en mai. Ça, c'est Fred. Là. Ça, c'est notre grand humoriste. Là. Il dit parce que ben, c'est ça, c'est mes pissenlits, on les coupe pas, on passe pas la tondeuse. C'est bon pour les abeilles, vous le savez. Alors, il dit on va sauver de l'essence en mai avec la tondeuse qu'on n'utilisera pas. Ah! Je vais bientôt aller mettre de l'essence dans ma voiture avec du lait. Ça va être bien moins cher. Il faudrait comparer. Hein. Quelqu'un qui dit ça joue énormément sur mes vacances. Moi, elles seront en juillet. J'espère que ça va pas perdurer, cette hausse du prix de l'essence. Quelqu'un qui dit on s'en va faire du camping à Saint-Mathieu du parc en Mauricie. C'est un superbe endroit, honnêtement. Là. Vous pouvez même vous laver dans des petits cours d'eau là-bas. Tout est très, très, très bien organisé. Puis effectivement, c'est pas trop loin. Fait que ça vous coûtera pas trop cher d'essence. Quelqu'un qui dit Vancouver en famille et j'ai pas compensé mes crédits carbone. Joke d'actualité avec l'essence aussi. Quelqu'un qui dit, moi, j'aimerais ça faire le tour du Québec, du moins monter dans le Nord et à Natashquan, mais ce sera impossible justement à cause du prix de l'essence. Ouais, c'est sûr que ça dépend ce que tu as. Ah, c'est ça, la personne nous dit qu'elle a un gros camion, fait que ça coûte très, très cher d'essence, mais c'est ça qu'il lui faut pour toute sa famille. On va parler d'un sujet qui va faire réagir, parce qu'hier, on avait une conversation sur le célibat. Est-ce que vous le choisissez ou vous le subissez? Ça a tellement fait réagir et à travers ces textos-là, il y a quelqu'un qui a écrit « Moi, ça va au-delà de ça. Quand je suis en couple, ça m'arrive d'avoir du désir pour d'autres personnes. Pas que je traverse la barrière, pas que je trompe mon ou ma partenaire, mais c'est ce que je trouve difficile dans le fait d'être casé, c'est de ressentir ce désir-là, me sentir mal. » Fait que là, j'ai commencé à faire des petites lectures hier, puis des petites recherches. Puis, je veux dire, la personne n'est pas seule, je pense. Là, une fois que vous êtes en couple, vous n'êtes pas quelqu'un qui ne voit plus et qui ne ressent plus rien. Mais il y a des psychologues qui se sont prononcés là-dessus. Désirer quelqu'un d'autre quand on est en couple, est-ce que c'est trompé? Vous pouvez écrire, vous pouvez répondre 88-971-1021 ou encore sur twitch.tv/blvd/fm. Mais c'est pas facile, effectivement, de composer avec des envies des fois charnelles ou encore intimes, mentales, envers quelqu'un d'autre quand tu es dans une union. Comme tu te sens mal, tu te demandes si tu es en train de tromper la personne. Mais je pense que ça arrive à tous et chacun, là, à un moment donné, dans une relation. Et la personne disait qu'elle était en couple depuis 8 ans, puis elle était super complice, qu'elle était soudée, mais justement, il y avait ces petits désirs-là une fois de temps en temps, parce qu'elle n'avait pas aussi dans son couple qui était représenté à travers une autre personne. Puis ça, souvent, c'est ce que les gens qui ont des couples ouverts ou autres prônent, hein? Le fait qu'une personne ne nous apporte pas tout ce dont on a besoin dans la vie, donc ça nous en prend peut-être plusieurs, mais ça, c'est leur vision à ces gens-là, puis il y en a plein, là, puis c'est super moderne, honnêtement. Je ne sais pas si ça vous concerne, mais bon, ça, c'est souvent un discours qu'on entend. Les désirs sont pluriels. Une psychologue, une sexologue même, Gwen Akale, qui est éducatrice à la sexualité et créatrice du compte Gwen Sexofof, si vous voulez aller voir ce qu'elle fait comme contenu, mais elle dit qu'il n'y a pas de raison de penser que le désir érotique qui est orienté vers une autre personne que la personne avec qui on est une preuve de désamour pour le ou la partenaire. Elle dit, en fait, ça fait partie, qu'on le souhaite ou pas, d'une base structurante du couple. Donc oui, ça peut susciter de la jalousie, ça peut susciter un inconfort, mais ce qu'elle préconise, elle, c'est d'en parler. Et moi, je lisais ça et j'ai eu un fort fou rire parce que je suis pas certaine, honnêtement, qu'il y a bien des gens qui seraient à l'aise d'en discuter avec son conjoint ou sa conjointe. Et de l'autre côté, qui serait à l'aise de l'entendre de sa conjointe ou de son conjoint. Et c'est là que je veux que vous joigniez à la conversation. Elle nous propose, nous suggère et même nous conseille d'en parler avec son partenaire si jamais on a des désirs envers quelqu'un d'autre. Elle dit, bon, reste à savoir si ce désir-là est formel, du genre « je veux te quitter ». Mais s'il est superficiel et qu'il y a un risque d'entraîner une crise de jalousie, idéalement, il faudrait quand même oser le dire. Exemple, j'ai trouvé un tel ou une telle séduisant, séduisante. On dit que le fait de normaliser la situation, ça peut désamorcer l'interdit et donc l'attirance envers d'autres personnes. Puis ça peut aussi faire en sorte qu'on va exprimer ouvertement quelque chose qui nous plaît, qui nous séduit et qui peut-être nous manque au quotidien et qui va ouvrir des portes à travailler ensemble en couple. Mais moi, je le sens très fragile, ce point-là. Autant pour des gens qui ont un manque d'estime, qui ils sont très, très fermés, qui ont vécu peut-être des traumas relationnels auparavant, des gens qui ont peur que s'ils en discutent, ça soit pris peut-être pour 7 fois, 8 fois, 9 fois plus que ce que c'est finalement. Mais elle recommande le plus de transparence possible, quitte à y aller par étapes. Donc, dire très peu dans le but de protéger son ou sa partenaire. Elle dit que ce n'est pas forcément une bonne idée. Ne pas le dire, ce n'est pas forcément une bonne idée non plus. Mais il ne faut pas non plus faire mal à la personne. Elle est mieux que toi. Elle précise ça quand même. Mais elle dit « Chaque situation est unique. Chaque désir l'est aussi. Moins on en dit, plus on risque de susciter de la peur, sinon une certaine paranoïa chez l'autre. » Donc, d'avoir un discours très ouvert, genre « Telle personne m'a écrit. » On s'est échangé 2-3 textos. Je sens qu'elle pourrait être intéressée. Je voulais juste te le dire. Donc, d'avoir cette conversation d'ouverture-là, de dire qui a texté, pourquoi la personne a texté, de dire, toi, est-ce que tu ressens du désir? Est-ce que tu t'es senti séduit ou séduite par une autre personne au bureau ou autre? Fera en sorte que ça met au courant ton partenaire. Et donc, il s'attend et il est habitué, de façon inconsciente et consciente, d'être dans une... Puis là, attendez-moi, écoutez, une boule de watts, là, ça dépend si la personne transgresse les règles du couple et s'en va littéralement tromper sa conjointe ou sa conjointe, là. Mais créer une boule de watts dans cette boîte-là qui fait en sorte que l'autre n'a pas le besoin de se faire des scénarios dans sa tête, n'a pas le besoin de partir dans des paranoïas, dans des inventions et autres parce qu'il est habitué de savoir ce qui se passe dans la vie relationnelle de son partenaire. Autant dire que... ça peut créer, surprenamment, l'effet positif d'être transparent. Êtes-vous d'accord avec ça? Je trouve ça vraiment fascinant comme petit conseil, mais on dit, bon, bref, là, on rationalise, on se déculpabilise, on discute, ça arrive à tout le monde, puis on rend les choses là, très transparentes, ouvertes. Ce n'est pas une infidélité d'avoir du désir pour quelqu'un d'autre. Après, ben, ça dépend ce qu'on en fait, mais soyons clairs, jasons-en ensemble, puis ça peut faire en sorte que l'équipe devienne encore plus forte et qu'on sache ce qu'on a envie dans notre propre couple, parce que ça va ouvrir des portes à la discussion. Beaucoup de gens qui commencent à commenter. Quelqu'un qui dit « Moi, en couple, tu peux regarder, mais tu peux pas toucher. » Quelqu'un d'autre qui dit « Tu peux avoir du désir et envers une autre personne, mais que ça veut absolument rien dire. Que tu passes, puis que ça te fasse aucun frisson, puis c'est juste « Ah, c'est une très belle personne. » Et ça termine là. Ben oui, ça, je suis d'accord. Quelqu'un qui fait une image. « Tu peux avoir une maison et tout de même regarder pour un chalet. » Quelqu'un qui dit « Tu peux magasiner, mais pas acheter. » Vous êtes dans les images. Quand tu commences à échanger des textos avec une personne ou en flirtant, c'est pas mal là pour moi que ça devient de la tromperie. Si tu regardes, j'ai pas de problème avec ça. C'est sûr que si tu regardes puis il y a un désir qui naît en toi, je veux dire, t'as pas eu tant de contrôle là-dessus. T'as le contrôle de tes actions. Beaucoup de gens qui disent « Moi et mon ex, ça nous amusait d'en parler et ça m'amusait même qu'elle se fasse creuser par d'autres hommes parce que je la sentais désirée, désirable, puis je trouvais ça intéressant de voir justement qu'elle était encore magnifique aux yeux des gens autour. » Quelqu'un qui dit « J'aime ça, c'est un bon outil. » C'est un très bon outil donc tu vas l'essayer, mais est-ce que tu as l'impression, si tu l'essaies, cet outil-là, d'être très, très transparent, que ça va passer ou que ça va casser? Est-ce que tu penses que tu vas faire de la peine? Il faut être conscient là, des insécurités de l'autre, là, pas l'aborder en disant « Ouais, moi, j'ai eu quelqu'un, puis si j'avais été célibataire, en tout cas, peut-être qu'il faut faire attention pour ne pas blesser l'autre non plus. » Salut, ma blonde et moi, on en a parlé. Puis on a été voir ce que ça faisait. On a essayé à trois même et ça a marché un moment. Puis maintenant, on est toujours ensemble. Pour moi, en parler, c'est mieux que de refouler les choses. Oui, fort probablement là, que le refoulement, ça a créé des séparations aussi à travers tout ça. Moi, je suis totalement d'accord avec ça parce que la communication est très importante ainsi que la transparence dans un couple. Il faut surtout avoir l'ouverture soi-même avant d'en parler à l'autre. Donc, l'ouverture d'entendre des choses difficiles, peut-être, c'est ça que vous voulez dire, pour être capable ensuite d'en dire. Mais des choses difficiles, ça dépend comment on le catégorise. C'est pas parce que tu es au régime que tu peux pas regarder le menu. On en sort des expressions, on en sort. Quelqu'un qui dit, mais c'est ça, je m'attendais à avoir un texto dans le genre et Et boy, ça commence à même. Oubliez ça. Moi, être honnête envers ma conjointe de certains désirs que je peux avoir ou certains manques va mener automatiquement à une chicane hors norme et peut-être une séparation à long terme. Je ne peux pas lui dire ça, pas parce que mes envies sont sérieuses et plus que sincères, mais plutôt qu'un simple désir va la désorienter, miner son estime. Ah, oh, j'ai de la peine pour cette personne-là. Ça veut dire qu'elle a peut-être vécu des affaires auparavant ou autre, là. Mais il y a quelque chose à travailler. Là. On ne peut pas rester dans ces insécurités-là. Ça doit être difficile autant pour elle de vivre ça que pour toi. Mais dis-moi, je marche sur des œufs. J'ai peur de la blesser. J'ai pas envie de la blesser, surtout qu'elle n'a pas à s'inquiéter avec quoi que ce soit. Mais je suis d'accord avec le fait que le désir est totalement humain. Mais que nous sommes responsables de nos comportements. Cette personne-là ne sent vraiment pas à l'aise à y aller avec le conseil de notre sexologue aujourd'hui. OK, au passage, c'est ma blonde qui a été avec un autre homme. OK, donc vous avez été très ouvert sur la question. Merci beaucoup. Quelqu'un qui ajoute, si tu es en couple et que tu envoies une photo, c'est trompé, si tu la reçois sans la vouloir et que tu ne le caches pas, mais que tu fais comprendre à la personne que c'est non, il n'y a rien là. Hey, mais ça, c'est intéressant. Il y a des gens qui sont jaloux en couple, puis il y a comme deux textos qui faisaient référence à ça. Des gens en couple qui sont jaloux par rapport à des actions externes au conjoint ou à la conjointe et qui, pour en parler puis avoir une opinion là-dessus, disent que si les gens autour de cette personne-là se sentent à l'aise d'envoyer des photos, des petits commentaires, des questions X, ça veut dire que le partenaire ou la partenaire a laissé croire qu'elle était ouverte à ça. Hey, ça pourrait être un autre débat totalement. Je sais que c'est cru beaucoup. Puis pour d'autres, c'est comme, ben non, soit, par exemple, un métier public, une personne qui est attirante ou une personne qui a à faire beaucoup de PR, de vendeur ou à côtoyer des gens, à être dans des soirées de rencontres, ben peut-être que sans avoir l'étiquette en couple dans le front, elle va attirer des gens. Puis ces gens-là vont s'essayer sans savoir que la personne est en couple puis ça va déranger l'autre. Mais est-ce que vous comprenez ça? Des gens qui approchent votre partenaire, est-ce que vous en voulez à votre partenaire ou vous en voulez à votre partenaire si jamais les réponses sont insatisfaisantes à votre égard, là, à votre regard aussi sur la situation? On pourrait en faire un tout autre sujet. C'est sûr qu'on va aborder tout ça avec nos psychologues à l'émission dans leur CV. Merci d'avoir participé en grand nombre. Je vous rappelle que selon la sexologue, si vous avez du désir envers une autre personne, qu'il soit sérieux ou pas, dans votre couple, ce serait la transparence, l'honnêteté et la communication qui seraient prioritaires pour dédramatiser la situation et rendre ça un petit peu plus anodin que de cacher et ou protéger, entre parenthèses, votre partenaire, tout simplement. TDAH, caravane à Boulevard 101. Je
cueille Pascal CV.
Allons, ayons confiance.
Boulevard 101.
Ça continue de rentrer pendant qu'on se jasait puis on écoutait Caravane à Boulevard 102.1. C'était notre petite question à deux scènes là, sur les relations en partenariat avec un commentaire d'une sexologue. Si jamais vous éprouvez du désir pour quelqu'un d'autre que votre partenaire, est-ce que vous le dites ou non? Est-ce que vous vous sentez mal ou non? Est-ce trompé ou non? On a tout exploré la question. Vous pourrez reprendre l'émission si jamais ça vous intéresse. Mais il y a eu d'autres commentaires qui sont entrés. Puis il y en a un qui m'a fait beaucoup rire. C'est sûr que vous allez reconnaître une couple de personnes. Ça pourrait être un scénario pour un gars et une fille là, avec notre cher Guy et Sylvie. Il y a Dave qui dit « Ma blonde, quand j'avais 18 ans, m'avait demandé qui était la plus belle fille au travail autre qu'elle. Elle m'obligeait à répondre. Alors, je lui ai dit le nom d'une fille de son département avec qui elle s'entendait bien. Puis après ça, elle ne m'a pas parlé pendant 3 jours et s'est mise à détester l'autre fille. » Bon, ça me rassure de savoir que c'était à 18 ans. Ah, c'est toute une histoire. J'ai l'impression qu'il y en a une couple qui rit dans leur voiture ou au bureau. Quelqu'un qui dit « Je trouve ça sain d'en parler, de ce genre de choses-là, mais pour ma part, je sais que j'ai besoin d'être avec une personne confiante qui aime communiquer. Ça fait partie de mes valeurs. Je trouve ça agréable de voir que ma conjointe est désirée par les autres. Toutefois, il faut du respect mutuel et qu'on soit sur la même longueur d'onde. » Quelqu'un qui dit « En couple depuis 7 ans et en couple ouvert, in and out, tout dépendant de nos besoins, parce que pour nous, c'est un extra et non un besoin. Ça comble notre écart de libido, mais il faut beaucoup d'ouverture et de conversation. C'est ce que notre auditeur dit. Et dernier message, je sais, vous pouvez continuer d'en écrire, là, je vais assurément les lire. Quelqu'un qui dit, je voudrais dire qu'il faut avoir de l'ouverture envers soi-même, reconnaître qu'on peut avoir des désirs pour d'autres personnes et pas se le cacher. Il y a 10 ans, quand j'étais avec l'homme avec qui je suis, on a repris ensemble il y a 1 an, à ce moment-là, il m'avait trompée. Quand il est revenu dans ma vie, il y a eu beaucoup de discussions très importantes en lien avec la transparence, justement, parce que moi, j'étais un peu craintive, mais j'ai décidé de faire confiance. Et oui, on jase beaucoup des gens qui essaient de flirter avec moi ou avec lui. Il y a une marge entre juste éprouver un désir et passer à l'acte. Tu peux avoir du désir et seul, toi-même, sois au courant aussi. Mais c'est ça où la sexologue recommandait de le dire, malgré tout. C'est vraiment intéressant, ces textos-là. J'adore ça quand vous participez comme ça. Je vois qu'il y a un intérêt, un fort intérêt pour ces sujets-là. On pourrait avoir une portion de Sainte-Nitouche une fois par semaine, 2 fois par semaine dans leur CV, un genre de petit aparté, puis on part sur un sujet. On a déjà bien commencé depuis quelques semaines à le faire. Je dois vous parler d'une nouvelle aussi qui est quand même importante à dire aujourd'hui, puisque je pense que ça va vous parler ou vous rappeler des souvenirs. Il y a, dans le Journal de Québec, une histoire sur des bruits excessifs et des plaintes incessantes d'un voisin, et ça va coûter 100 000 $ de rénovation à un bar du village. Il y a le copropriétaire qui déplore qu'il y a eu de l'acharnement d'un citoyen qui perdure depuis des années. Copropriétaire d'un bar de Montréal là, qui dit avoir dû débourser 100 000 $ en rénovation, 30 000 $ en contravention, vraisemblablement parce qu'il y a plusieurs plaintes incessantes d'un voisin pour du bruit. Donc, il se faisait toujours avoir par, justement, les policiers qui arrivaient et qui disaient « Ouais, votre bruit » puis tout ça. Bon, ça, c'est une chicane X. Mais ça va commencer à revenir dans l'actualité, ces chicanes de voisins-là, de qui fait plus de bruit, qui nous dérange. Puis, on avait aussi des nouvelles dans l'actualité récemment par rapport à des plaintes à la régie des logements pour des locataires dérangeants. Ça me rappelle à quel point on a tous des histoires sur le fait que la cohabitation, que ce soit dans un immeuble ou avec notre cochambreur, je veux dire de même, là, mais voyons, il y a un mot pour ça, Pascal, c'est vendredi, mais... André, je vais décrocher avec vous, je vais continuer dans le cochambreur ou la personne avec qui tu habites, qui était dérangeant, qui n'avait pas le même rythme de vie que nous. Donc, ça, au cégep, vous avez dû être une coupe à lever, ou encore dans votre immeuble à logement aussi. Coloc, merci, voyons, c'était pas si compliqué que ça. Une chance que vous êtes là. Est-ce que vous avez vécu ces histoires-là? Parce que, justement, par rapport à cet article-là, je suis tombée sur un à l'international en lisant mon journal Le Monde, et il y a un coloc qui a été... Je ne sais pas pourquoi il y avait des prix dans cet immeuble-là. On dirait que c'est ma nouvelle passion, découvrir si dans les immeubles de tous et chacun, ça doit être dans des condos et autres, il y a des prix remis aux meilleurs voisins, aux plus aidants, aux plus dérangeants, aux plus bruyants. Et il y a un de ces gentils camarades de logement qui a reçu, le prix de la personne la plus bruyante au lit. Ça doit être assez gênant à recevoir. Ils se font un genre de gala. Là, je ne sais pas si ça vous tente de commencer ça dans vos immeubles à condos. Déjà que vos rassemblements de condos, moi, ça me fait bien, bien rire parce qu'il y a toujours quelqu'un qui n'a pas eu assez de pouvoir dans sa vie puis il s'en va être le chef de l'immeuble à condos. Maxime Larouche m'invite parfois dans ses assemblées puis c'est un bonbon pour moi là, de voir combien on va mettre dans la piscine chauffée. On la chauffe à partir de quand? Si on mettait plus d'argent, on pourrait la chauffer jusqu'en novembre. Ça, c'est une vraie phrase qui est sortie. Tout ça pour dire qu'ils ont des petits galas comme ça. Et il y a vraiment quelqu'un qui s'est vu remettre parce qu'il y a des votes secrets et les votes sont accumulés. Puis lui, il sait ou elle, elle sait qu'ils ont récolté en tant que couple les plus bruyants au lit face à ses autres partenaires d'immeubles. Peut-être que ce sera dans les assemblées de condominium maintenant, ce genre de gala une fois par année. Oui, coloc, colocataire, ça rentre en masse. Merci d'avoir été là pour moi dans mon petit blanc de vocabulaire aujourd'hui. C'est vendredi. Quand on va aller en chanson. Le Gab Bouchard est là, remède, dans leur CV, puis on revient, on termine l'émission ensemble.
Dans le retour. Gravel.
Je sais pas toi, moi j'ai rêvé au Corneille. J'étais pleine, j'avais bu du vin, la vie était belle.
Quoi rêver au Corneille?
Ça veut dire que tu dors pas particulièrement bien. Vous avez jamais entendu ça, ma mère me dit.
Bailler au Corneille, ça existe.
Rêver au Corneille.
Ça existe pas.
C'est une invention familiale.
Ce n'est pas une invention. Donc j'ai rêvé au Corneille, OK? J'ai pas bien dormi.
On baille au Corneille. Hélène a raison. L'expression qui existe, Audrey, et c'est malheureux. Je suis vraiment peiné pour toi et ta mère. Mais clairement.
Je suis pas peiné, je viens de vous ouvrir les yeux.
Non, clairement, c'est un.
Excuse-moi, c'est révolutionnaire ce qu'on
C'est un cas de fabulation.
Non, pas du tout, là. Utilisez ça, vous allez voir, ça sonne bien.
Je suis sur le bord d'écrire le petit livre des affaires qui n'existaient pas avant Audrey.
Mais je vais faire le petit pain chaud. Il y a le petit Robert, là.
Hey, vous êtes à Boulevard 102.1. C'est Mike Gauthier pour l'émission Midi Plus. J'ai une entrevue exclusive avec cette dame lumineuse qui a été éliminée en quart de tiers de finale de Star Academy et qui lance aujourd'hui son album Rêver aux Corneilles. Audrey Pinchot, bonjour.
Gravel.
Boulevard.
Dans le retour.
102.1.
En semaine, 14h.
It's time!
Leur CV avec Pascal CV.
C'est la fin de leur CV pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là en grand nombre. Hier, je veux juste dire que j'ai une conversation avec une médecin de famille de la région de Québec. Puis on se mettait à jaser justement des problématiques ici, là, partout dans la capitale nationale. Et elle m'apprenait une statistique qui m'a quand même fait halluciner. T'sais, en médecine familiale, ça a été de moins en moins chéri par les étudiants en médecine comme choix final de médecine là, qui allaient pratiquer tout au long de leur vie. Entre autres parce qu'il fallait s'éloigner. Il fallait aller pratiquer en région pendant quelques années. Il n'y avait pas de place ici dans la capitale nationale. Et elle m'apprenait qu'il y a un gros gap entre deux générations. Entre autres, là, dans la capitale nationale, 80% des médecins qui ont sur leur liste des patients, là, des médecins de famille, ont 60 ans et plus. Donc, pour 80% des patients traités par des médecins de famille dans la capitale nationale, ce sont des médecins de 60 ans et plus. Quelque chose qui va se passer là, dans les prochaines années, vu comment on a géré ça là, dans le ministère de la Santé à travers le temps. Mais au moins, vous aurez appris cette statistique-là. Je la trouve fascinante, captivante et ça ajoute énormément à nos débats sur tout ce qui est fait en ce moment par le ministre Dubé et la nouvelle Top Gun. Je dois vous dire merci beaucoup à ceux qui sont sur la route. Il y a du trafic à partir de la 20 un peu avant Saint-Jean-Chrysostome et ça bloque à la sortie des îles. Et par la suite, ben, ça continue, mais quand même, c'est très difficile en ce moment sur la 20. Vers Lévis, c'est compliqué à partir de Saint-Jean-Chrysostome. Il y a des pédagogiques, je le sais, un peu partout dans la région, mais voilà pourquoi ça roulait ce matin, sauf que dans des endroits, ben, c'est quand même difficile. Merci d'avoir été dans leur CV. Peut-être qu'on pourrait se quitter sur un bon PAG. Il nous reste que quelques heures à cette journée du vendredi avant de tomber en week-end. Passez donc un magnifique vendredi, un magnifique week-end. C'est tout ce que vous méritez. Et sortez 16 degrés. Comme maximum aujourd'hui, puis un week-end en alternance soleil-nuage. Salut tout le monde, à tout de suite dans Masse au midi. Pascal Paradis du PQ sera là. Lui, il va avoir à travailler. OK, bye-bye. Bye-bye tout le monde.